Nous sommes anonymes, nous sommes dans l'ombre. Les sous-bassements sont nos refuges, ils seront vos tombes. Du formol ou de la putréfaction, le capitaliste n'est que la chair. Nous en serons les lombriques obèses. Ni oubli ni pardon. www.libradio.org. La radio de la fosse et de l'abîme.
Ce quatrième film, donc Baraka meets Baraka.
Alors ça, c'est un film qui vient d'Arabie Saoudite. Alors, Helvetas n'a pas forcément d'activité dans ce pays-là, mais on n'en voit pas beaucoup des films en provenance d'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le deuxième distribué en Suisse. Et la petite histoire, c'est qu'Helvetas, dans le cadre du cinéma sud, avait déjà présenté le premier film. Donc là, bah, on continue l'histoire. Et puis, bah, c'est une comédie, c'est assez drôle, sur bah, voilà, l'histoire de deux jeunes gens qui essayent de se rencontrer, de sortir ensemble, enfin, tout d'abord de se rencontrer, dans le pays aujourd'hui où on ne peut pas, un homme et une femme ne peuvent pas se parler, échanger, se rencontrer dans l'espace public. Donc voilà, c'est tout un petit peu cette thématique-là, toutes ces lois, tout le poids de ces lois religieuses qui empêchent de se découvrir, de se rencontrer, pour la jeunesse notamment. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des petits flashs dans le passé où on voit des images en noir et blanc, où on voit un pays qui est plus libre. Il y a peut-être dans les années 60, 70, qu'aujourd'hui, en 2017. Donc voir un petit peu aussi toute l'absurdité, quelque part.
Et puis les régressions que l'on peut également connaître. Oui. Et effectivement, on traverse des temps, comment dire, délicats, pour le moins troubles, parfois même. Et effectivement, on assiste des fois à des situations de régression qui sont funestes, effectivement.
Oui, et je trouvais intéressant de pouvoir montrer justement de manière assez marrante, sous un côté assez léger, de voir aussi un peu la réalité, la vie, comment ça se passait dans ces pays-là qu'on connaît peu.
Certainement. Alors justement, Florence, un mot par rapport au cinéma en Arabie Saoudite, au travers de Trigon, est-ce que vous savez qu'en est-il? Parce qu'effectivement, récemment, on a encore vu qu'un blogueur avait été condamné pour un clip, qu'effectivement, certaines femmes avaient commencé à dire « Non, nous, on veut se montrer en train de conduire une voiture parce qu'on veut transgresser, parce qu'on veut avancer là-dessus ». Qu'en est-il du cinéma en Arabie Saoudite?
Alors en fait, le cinéma en Arabie Saoudite a été annihilé, je crois que c'est à partir du début des années 70, où c'est-à-dire que depuis le début du cinéma, il y a eu des films saoudiens, mais justement, serrage de ceinture, grosse répression, donc le cinéma n'a plus pu exister. Et là, on est avec Baraka meets Baraka et Mahmoud Sabah, qui est un jeune réalisateur d'une trentaine d'années, dans la renaissance de cinéma, qui arrive à recréer des structures. Mahmoud Sabah est un des pionniers, en fait, de ce nouveau cinéma, mais qui, évidemment... doit composer avec la réalité de son pays, mais qui arrive là quand même à produire une comédie bien piquante. C'est clair que peut-être il a dû se passer de dire certaines choses,
oui,
mais il met beaucoup d'ironie, et on voit justement dans le film que les règles sont très strictes, mais les réseaux sociaux permettent justement aux gens de s'échapper, de montrer justement ce dont on parle là, des vidéos interdites, de les faire sortir envers et contre tout, après avec une répression aussi. Certainement le gouvernement va rechercher les auteurs des vidéos. Je n'ai pas suivi exactement ce qui se passe là dernièrement avec la vidéo de la fille là, qui dit voilà, moi je veux me montrer, comme ça. Et le film expose bien tout ça.
Oui, Alain avait un commentaire.
Oui, mais c'est justement ce sujet. En début de semaine, heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux, en fait, qui ont fait une boule de neige terrible. Et la police des mœurs et de la religion, qui avait commencé à l'arrêter et autres, l'ont relâché, tout simplement.
D'accord, très bien.
Donc là, on voit également des rôles du cinéma, qui est également celui de, par le biais d'analogie ou par le biais de parabole, d'arriver à justement se frayer un chemin vers la liberté, peut-être justement en ayant un regard esthétique et non pas directement militant, mais d'arriver quand même à ce qu'on progresse vers le mieux vivre, finalement.
En effet, bien. Mais c'est vrai que quand on est un réalisateur saoudien, on ne ouais. peut pas ne pas parler... Enfin, on peut faire des films qui ne parlent pas de ça, mais disons que là, cette jeune génération, elle veut parler de ça, donc elle y arrive et ça va encore progresser. Ouais.
Ouais. Alors malheureusement, moi, le nom m'échappe, mais du coup, ça me permet de citer un autre film que l'on avait pris chez vous, à Trigon Film, c'était Hors Jeu, de Jafar Panahi, cinéaste iranien, qui a eu pas mal de problèmes, qui a dû s'enfuir avec des copies du film. En l'occurrence, Hors Jeu, c'est l'histoire des filles qui veulent aller voir des matchs de foot, ouais. et c'est interdit. Enfin, c'était compliqué. À l'époque, on faisait un festival qui parlait de l'Eurofoot quand il avait eu lieu par ici, en 2008, je crois. Et effectivement, je sais que relativement récemment, un autre réalisateur iranien, jeune réalisateur iranien, qui lui aussi allait à l'encontre de toutes ces restrictions, eh bien, a été incarcéré. Et je sais que Jafar Panahi, eh bien, a monté un truc de soutien. Voilà, donc on peut très bien trouver l'information en mettant Jafar Panahi, solidarité, des choses comme ça. Mais effectivement, on voit que le rôle du cinéma est aussi celui-là, au bout du compte. Très bien. On continue avec Rara.
Voilà, donc Rara avec l'accent.
Un film chilien,
voilà.
D'accord.
Donc là, c'est à travers les yeux encore d'une adolescente, d'une préadolescente d'une douzaine d'années, qui grandit dans une famille de... Comment est-ce qu'on dit ? Une famille... Non, je voulais... C'est pas du tout monoparental, au contraire. Une famille de...
Recomposée, peut-être ? Non.
Voilà, les deux mamans sont lesbiennes, en fait. Ah, leur maman... Désolée, parce que j'ai homoparental, voilà, homoparental, dans le sens où leur maman, biologique, a divorcé de leur papa biologique et est en couple maintenant avec une femme. Et tout se passe très bien, enfin, on les voit vivre dans une atmosphère enfin, pacifique, détendue, jusqu'au jour où le père se dit « Non, mais c'est pas forcément très sain pour ma fille ». Enfin pour mes filles, parce qu'il y a deux sœurs, de grandir dans cet environnement-là et qui commencent à mettre en route une bataille contre la garde en fait, dont bénéficie la maman. Et c'est en fait une histoire vraie qui s'est déroulée au Chili dans les années 90, si je ne m'abuse, où en fait la personne à qui c'est arrivé était une juge chilienne, donc quelqu'un de haut placé, qui a justement vécu ça de son ex-mari et s'est battu jusqu'à la Cour des droits de l'homme et a obtenu justement qu'on reconnaisse que ce couple de femmes était tout à fait apte à élever des enfants et ne devait pas être condamné parce que ça a été une campagne assez violente au Chili. Le Chili, quand même, bien conservateur. Enfin, ici, c'était pas beaucoup mieux dans ces années-là, mais donc vraiment quelque chose d'exemplaire. Et le film montre ça, c'est intéressant, à travers les yeux justement de la jeune fille qui se demande mais pourquoi est-ce que ces adultes en fait vont décider de ma vie à ma place. En fait, on lui demande jamais son avis, on écoute juste qu'elle a peut-être, comme elle a 12-13 ans, évidemment. Quelques révoltes adolescentes, on se base sur ça, enfin le père et les avocats se basent sur ça pour utiliser contre en fait le couple de maman. C'est vraiment un très beau film. Il était sorti l'année dernière, il avait bien marché, beaucoup d'échos positifs. Je sais pas là comment les gens réagissent à ce sujet.
C'est vrai que c'est un sujet, l'assignation des rôles, tout ça, c'est un sujet.
Mais c'est vrai que j'ai eu moins de retours sur Rara. Mm-hmm. J'ai plus eu des retours White Son, Tana et Baraka, Meets Baraka. Mm-hmm. Un peu plus partagé, Baraka, Meets Baraka. Mm-hmm. Ouais.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un sujet assez délicat, mais en même temps essentiel.
Ouais,
donc
tout à fait,
c'est
ouais.
bien,
ouais.
je trouve, d'aller dedans. Et puis le cinéma chilien est un cinéma par ailleurs particulièrement productif.
Ouais.
Il semble très militant. Effectivement, bon, nous, on a beaucoup regardé les Patricio Guzman, hein, tout ce qui concerne Allende et tout. Est-ce qu'Opération Condor est un film chilien ou peut-être argentin ?
Je sais pas.
Mais alors, c'est un cinéma un petit peu comme ça, dont on peut dire, comme le cinéma indien, qui va nous concerner juste après pour la saison des femmes, qui est parmi les cinémas, disons, vraiment désert.
Oui, et très dynamique. Et là, maintenant, justement, Pepa San Martin, la réalisatrice de Rara, fait partie de ce qui s'appelle le nouveau, bon, il y a toujours un nouveau, mais sa génération du nouveau cinéma chilien, qui s'occupe justement de thèmes sociétaux, par le fait aussi que voilà, la société s'est quand même libérée, mais n'est pas une société simple ni super ouverte. Donc il y a plein de sujets différents. Chez Trigon Film, on a sorti ces dernières années plusieurs films chiliens très très intéressant où on voit que ces réalisateurs qui ont une trentaine d'années justement ben, sont nés à une autre époque et
Ils échappent peut-être à une certaine grammaire. Mais y a-t-il une problématique de la mémoire encore qui reste là? Je pense à ça parce que le Chili et l'Argentine, avec, si on prend l'Argentine, là, les Mujeres de la Plaza de Mayo, donc ces femmes qui tournent en rond depuis des décennies pour la mémoire de leurs disparus. L'opération Condor, effectivement, ça aborde cette situation des dictatures d'Amérique latine qui allaient parachuter les Argentins, on vidait là, les gens dans l'océan. Au Chili, on a vu le stade du Colo-Colo, le stadio national, qui était devenu un camp. Est-ce que le devoir de mémoire est-il très présent, prégnant dans le cinéma chilien actuel?
Pour ce que je connais...
On veut y échapper, justement.
Ouais. Je pense qu'il y a toute une partie qui veut y échapper, mais je veux dire, c'est toujours présent quand même dans la structure, les structures sociales, dans un film qu'on avait sorti qui s'appelait Aquino a Pasado Nada, où on voyait justement l'injustice de la justice chilienne, qui sont des héritages aussi de l'époque. Bon, Patricio Guzmán a fait encore ces dernières années plusieurs films qui parlent de la dictature, mais je pense qu'il y a une partie des réalisateurs qui ont plus envie de parler de ça. Quoi.
Ouais, ça se comprend en même temps.
Hein. Bah oui,
mais c'est vrai qu'il y a encore des images qui nous habitent, des images terribles, hein, comme quand on voit effectivement Pinochet chez Thatcher. Alors maintenant, effectivement, c'est révolu, mais d'une certaine manière, il y avait une forme d'impunité tellement présente, tellement obscène finalement, de s'afficher de cette manière-là que voilà. Quoi qu'il en soit. Allons-y avec le dernier film. Donc là, on parle de l'Inde, La saison des femmes.
Alors oui, ça, c'est le dernier film qui n'est pas de Trigon. Et c'est une réalisatrice. D'ailleurs aussi, on voit hein, dans le résumé qu'on a fait des films que soit la difficulté de tourner, soit les empêchements liés à la réalité. Et là aussi, je crois qu'elle voulait tourner dans son village. Elle a été un peu empêchée ou ça a été compliqué. Je me souviens pas de tout, je sais que je l'avais lu. Et donc on voit que voilà, même aujourd'hui pour une femme réalisatrice en Inde, ben c'est pas tout gagné, surtout si on fait un film peut-être hors des histoires bollywoodiennes un peu plus voilà,
un peu folklorique, un peu kitsch et voilà.
Parce que là c'est vraiment un film engagé. Il est peut-être un petit peu plus dur que les autres hein. D'ailleurs, il est pour 16 ans parce qu'il y a des thématiques ou des scènes un petit peu plus violentes, mais voilà, c'est l'histoire de quatre femmes. Ces quatre femmes, elles sont magnifiques, elles sont toutes belles chacune par rapport à leur histoire. Et puis en fait, c'est une histoire d'amitié puisque ces femmes-là, elles vont s'épauler, elles vont se soutenir. Finalement, c'est une quête de liberté. On voit encore, c'est un film qui a été tourné dans l'Inde aujourd'hui, dans un petit village, le poids des traditions. Par rapport où il faut marier absolument le fils, l'histoire de la dot, donc une mère qui s'endette pour marier son fils, mais son fils n'est finalement pas heureux de ce mariage qui ne satisfait personne, ni la fille mariée, parce que ben, forcément, c'est pas le jeune homme qu'elle avait choisi, le garçon, le mari qui n'aime pas sa femme, la mère qui s'est endettée, puis finalement voit que son fils se détourne de cette femme. Donc voilà, tout finalement, aussi les conséquences d'une obligation, donc de se marier, qui finalement ne satisfait personne et a des conséquences sur les vies de tout le monde. Et voilà, l'alcool aussi, le poids de la pression sociale de ce jeune homme qui est chambré par ses amis, qu'il faut absolument qu'il ait un nombre de femmes ou qu'il rencontre d'autres femmes avant de se marier. Donc cette pression sociale qui fait qu'on va avoir des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on aurait envie d'avoir, où on est poussé à faire des choses dramatiques pour répondre à certains critères. Et donc voilà, et puis ces femmes qui vont se battre et puis qui vont pas se laisser faire par les hommes et puis qui vont essayer de s'émanciper, de se libérer et puis voilà, au travers de parcours différents. Et c'est vraiment une belle histoire. C'est dur mais en même temps coloré comme l'Inde peut l'être. C'est plein de couleurs, c'est plein d'espoir et c'est vraiment un joli film engagé. Mais voilà, où on rit, où on pleure, et c'est très plein d'émotions.
Très bien, très bien. Alors, un commentaire, une remarque.
Oui, j'entends là des films fort intéressants, mais est-ce que vous les passez tous le même soir?
Non.
Ou vous les passez chaque soir un film différent et vous restez plusieurs fois, plusieurs jours au même endroit?
Oui, alors c'est une projection par soir.
Oui.
Et puis en général, on reste 3 jours. C'est ce qui s'était fait un petit peu, on va dire, traditionnellement. 3 jours dans les principales villes. On est resté 4 jours cette année à Neuchâtel, puisqu'il n'y avait pas d'autres endroits dans le canton. Donc, on s'est dit, on reste un petit peu plus longtemps à Neuchâtel. Et on reste 6 jours à Genève et 6 jours à Lausanne, qui sont les grosses étapes de la tournée où là, on projette tous les films.
6 films. Ouais.
J'ai l'impression qu'on a fait le tour des films.
Oui, tout à fait. Là, il y a 6 films. Et juste pour revenir sur la saison des femmes, il y a à un moment donné une scène où c'est aujourd'hui, quoi. Et c'est dans un petit village, les femmes qui se battent pour avoir la télévision dans le village. Donc, c'est une télévision pour tout le village. Et les hommes qui prennent les décisions ne veulent pas de cette télévision, de peur que les femmes, du coup, en voyant certains programmes, aient des idées, inadmissibles. Et du coup, les femmes sont prêtes même à obtenir l'argent elles-mêmes pour pouvoir se payer cette télé, puis elles sont en négociation avec les hommes. On a l'impression, enfin, on se dit pas que c'est aujourd'hui en un. Ouais. Mais si.
Alors, tous ces films sont à découvrir tout au long de la tournée, hein, ces horizons que l'on a envie de, dans lesquels on a envie de se projeter, avec ces histoires de l'intime également. Et c'est ça la magie du cinéma également, c'est de pouvoir avoir un horizon sans confins et en même temps de parler de nos histoires intimes à toutes et à tous. C'est cette espèce de rencontre-là, de ces extrêmes-là, qui fait que le cinéma est par ailleurs également quelque chose de particulier. Y a-t-il par ailleurs des questions qui émergeraient, ou alors je pense qu'on arrive tout doucement au bout de l'entretien. Alors, elle se prend un micro, s'il te plaît.
Alors, moi, j'avais une petite question qui venait quand vous avez commencé à parler du film sur l'Inde, parce qu'on connaît la puissance sonore de l'Inde, la musique, mais pas seulement, les rues. Là, à Genève, on entend quelques pimpons passer, tout ça, ça reste des rues qui sont assez silencieuse quelque part. J'avais une question quant aux 6 films, pour lequel vous avez un coup de cœur sur la bande son, sur l'univers sonore en fait.
Alexandra est percussionniste par ailleurs. Il fallait quand même le dire puisque tu es notre invité de tout à l'heure. Bienvenue.
Ben, ça personnellement c'est une question un petit peu plus... Oui, alors ouais, j'aurais envie un petit peu de dire la saison des femmes, parce que forcément il y a de la musique très très riche, c'est rythmé, mais c'est vrai que c'est un élément où je fais moins attention. D'accord. Mais maintenant que tu en as parlé, mais c'est vrai que je me souviens moins de la musique, mais c'est vrai parce que là, à un moment donné, il y a une fille qui chante aussi, donc il y a des moments de musique plus importants, et puis voilà, c'est vrai que la musique indienne est assez rythmée, mais c'est vrai que pour les autres...
Je parle de bande-son, ça peut être plus généralement, ça peut être simplement le travail du bruitage, ou c'est pas uniquement la musique, il y a des super films.
Alors je pense que dans ce sens-là, Tana est super intéressant, parce que donc, ça c'est le film qui a été tourné sur l'île de Tana dans le Vanuatu, volcanique, avec le volcan en activité, qui est aussi un personnage du film. Et là, alors justement, on a un son direct de... Alors oui, il y a le volcan, mais il y a tout l'aspect de la nature, parce que là, on est vraiment dans les tribus qui restent, qui vivent vraiment de manière traditionnelle, où les deux réalisateurs australiens ont vécu en immersion pendant des mois avec eux, avec les gens, ont écrit l'histoire avec eux, d'après l'histoire vraie qui s'était déroulée à la fin des années 90, et ont travaillé avec une caméra et un micro. Donc c'est vraiment, c'est les deux, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de... Enfin, tout est naturel et tout le son est génial dans ce sens-là.
Les bruissements de la nature, les bruissements des humains.
Ouais, l'eau, volcan, les oiseaux. En effet,
En fait, le silence n'existe pas au bout du compte.
Non, je crois aussi.
Mais on en parlera tout à l'heure concernant effectivement la percussion, les sons, toutes ces choses-là. Nous allons y venir un petit peu plus loin. On arrive doucement au terme de l'entretien. J'aurai encore, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, une question pour chacune de vous. Et puis ensuite, si vous souhaiteriez répondre aux meilleurs films, je vous avais demandé comme ça, 3 meilleurs films pour chacune de vous. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à là. Mais voilà, s'il y a comme ça, pour une quelconque anecdote... quelques films que vous mettriez un petit peu plus en exergue. Mais avant cela, j'aurais envie d'en venir encore une fois à Florence pour Trigon Film. Alors, Trigon Film devient une référence pour les programmateurs de nombreux événements culturels. Ça, c'est la réalité depuis 30 ans maintenant que vous existez. C'est certainement une belle consécration, mais également une belle responsabilité. Alors, comment l'endossez-vous? Comment l'assumez-vous à Trigon Film?
Ben, simplement en continuant le travail du début, tout en s'adaptant évidemment aux évolutions du monde du cinéma, de la création, de la distribution, c'est-à-dire en choisissant les œuvres, des œuvres de qualité, pas des œuvres alibi de dire « Ah, ben, il nous faudrait un film de tel pays, là, maintenant, donc allons chercher un. » C'est vraiment un choix soigneux d'œuvres de qualité qui ont quelque chose à dire. c'est d'accompagner les réalisateurs aussi. On arrive quelquefois à inviter les réalisateurs en Suisse, c'est de leur faire rencontrer le public. Je dirais, c'est tout ce côté accompagnement de la sortie des films, les mettre en valeur. Dans le fonctionnement de Trigon Film, les rentrées d'argent sont en grande partie consacrées justement aux réalisateurs sur place. Il y a un retour, Trigon Film ne fonctionne pas que sur un aspect commercial pur. Le but n'est pas de faire le plus possible d'argent avec ses films, mais d'alimenter justement tout ce circuit et d'aider les réalisateurs sur place.
Voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est les économies mise en place également par le biais de tous ces corps de travail qui sont impliqués, par le biais de ce partenariat horizontal. Mmh. Juste encore une dernière question concernant le rythme de production, de distribution des films. Là aussi, vous ne faites pas la part belle à la vitesse. Vous prenez le temps de prendre le temps.
Voilà, exactement. On sort en principe un film par mois. Voilà. Donc les films sortent en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin. Parfois en même temps, parfois pas, ça dépend des agendas, enfin de diverses contraintes. Mais voilà, l'idée c'est de soigner ces sorties, de soigner la présentation des films, tout cet aspect justement des sous-titres sur lesquels travaillent des professionnels. On n'est pas non plus une structure qui pourrait sortir un film par semaine, hein, c'est pas le but non plus.
Oui. Tout à fait. Et voilà, on l'a dit, tu viens de le rappeler, le parti pris de la version originale avec les sous-titres, parce qu'on considère que ça fait sens et que ça fait partie du film, ça fait partie intrinsèquement de l'œuvre. Mm-hmm. On le rappelle, le site internet www.trigon-film.org, il y a une newsletter à disposition, il y a la VOD sur le site internet et toutes les informations usuelles que l'on trouve sur un site internet. Y aurait-il peut-être encore une actualité sur laquelle tu aimerais revenir pour Trigon Film ?
Il y a les prochaines sorties,
j'ai parlé tout à l'heure
du Cinélux, comme on est à Genève. Donc à partir du 6 septembre, c'est la rentrée, Trigon Film, un film par mois au Cinélux. Donc le premier, ça sera un film qui s'appelle Gabriel and the Mountain, qui est un film brésilien, mais qui a été tourné en Afrique. La vie et la mort d'un jeune Brésilien qui s'appelait Gabriel Burkman. Peut-être que vous en aviez entendu parler à l'époque, en 2009, il avait disparu dans un massif montagneux du Malawi, où il est parti seul à l'ascension d'une montagne. Et justement, le réalisateur Felipe Barbosa, qui était un ami, est parti sur ses traces en Afrique à rechercher les gens qui avaient croisé ce Gabriel, qui voulait justement vivre non pas comme un touriste. Il disait toujours je suis pas un touriste, il essayait, mais justement jusqu'où on peut faire ça, ça montre aussi voilà, la limite de ce qu'on peut en tant que touriste atteindre comme idéal, et qui est décédé justement lors de l'ascension de ce mont Mulanje au Malawi dans des conditions épouvantables. On ne s'est pas rendu compte, en fait, dans son trip de se fondre dans l'Afrique. Donc c'est un très beau film à découvrir, mais ailleurs aussi en Suisse romande, à partir du 6 septembre. Voilà.
Très bien. Et on en profite pour saluer Mathia, Judith du Cinélux. Ce sont des amis, des partenaires pour nous à la radio, puisqu'on s'y est déjà rendu à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Concernant Helvetas, alors, la petite question pour en terminer, cette tournée contient-elle un appel ludique à rejoindre les projets que vous portez, à tout le moins à les faire connaître? Est-ce exact? Et si oui, cela est-il remporté? Tu as déjà un petit peu répondu à ça en filigrane tout au long de l'entretien, où tu disais qu'effectivement vous faisiez le lien entre le film choisi et puis des projets, les pays dans lesquels il y a des projets. Mais est-ce qu'effectivement Helvetas, par le biais de cette tournée du cinéma sud, justement essaie de conquérir des espaces, en même temps de faire de la pédagogie, et puis de lancer un appel en disant, voilà, il y a des situations délicates, rejoignez-nous si vous voulez, pourquoi pas, et faisons un bout de chemin ensemble.
Alors, je pense que c'est tisser des liens. C'est tisser des liens sur un pays, c'est sensibiliser, ouvrir l'esprit sur ces réalités, ces enjeux globaux, qui concernent peut-être une région, mais qui finalement nous concernent tous. Puisque, la migration, quelque part, ça ne concerne pas que les gens, d'ailleurs, puisque ça nous concerne aussi, nous, le changement climatique, tout ça. Et donc, c'est plutôt de créer des liens, oui, voilà, d'ouvrir des portes. Que, si, par exemple, voilà, on va voir le film, sur le Népal, et bien, tout d'un coup, quand on entend parler du Népal, on se dit, ah, bah, tiens, ça me rappelle, j'ai vu ce film. Ah, ben, qu'on soit plus sensibilisé à ces thématiques, qu'on se dise pas, ah, ouais, non, ça ne me concerne pas, je m'en fiche. C'est plutôt ça l'idée. Si après la personne elle a envie de s'engager, Bah, évidemment, tant mieux. Pour Helvetas, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est plus, on dirait, indirect, évidemment, qui a aussi l'envie de parler d'Helvetas, de faire connaître. Mais c'est plutôt, oui, voilà, d'ouvrir l'esprit des gens, de les sensibiliser aux réalités d'ailleurs, qu'on soit un petit peu plus solidaire, plus ouvert. Voilà, c'est plutôt ces choses-là.
Et c'est vrai que le cinéma, pour ça, permet de comprendre qu'il y a un ailleurs qui est également ici et que les intrications sont clairement là, et qu'elles existent, que l'on est un petit peu tous.
Puis ça fait passer des messages, humaine, des émotions, exactement. Enfin voilà, meilleur que tout discours ou toute explication. Oui. Avec un film, c'est vraiment important.
Très bien. Alors, y a-t-il des remarques ou des commentaires autour de nous? Sinon, la question pour en terminer, ce serait celle de savoir si vous avez 2-3 films à nous conseiller, ou en tout cas des films un petit peu chouchous comme ça que vous aimeriez mettre un petit peu en exergue. Des questions? Non? Ça veut dire qu'on a fait le tour, on a été relativement exhaustif peut-être. Tant mieux, tant mieux. Alors, est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Quelques films qui auraient habité comme ça votre existence et que vous aimeriez recommander à la postérité? Florence, pour Trigon Film, est-ce que tu veux commencer?
Alors, il y a un film dont tu as parlé qui est Sourd de Solanas.
Tellement beau.
On se retrouve 1988, hein, donc nous on vient de le restaurer et voilà, il est mis à disposition des cinémas et également en DVD. Bon, moi voilà, je crois que je l'ai vu quand j'avais 20 et quelques années, je ne sais plus où exactement, mais ça avait été vraiment un choc, un enchantement, un choc. Buenos Aires. Le chanteur, il y a un chanteur de tango là, donc qui est vraiment un des grands chanteurs. La musique d'Astor Piazzolla, enfin ça m'avait vraiment emporté. Ouais. Et je viens justement de le revoir à l'occasion de cette ressortie. Et puis c'est ça encore plus fort avec l'âge. On comprend encore plus de choses. Et ouais, c'est vraiment à recommander. Ouais. J'espère que des cinémas vont le repasser ces prochains. Oui. Je sais qu'il y a un projet à Fribourg en tout cas, donc ça va venir. Ouais.
Sur, mm-hmm. ouais, de Fernando Solanas. Mm-hmm. C'est très bien. Marion, et toi?
Ben, c'est un petit peu difficile comme
oui, et
question.
Et c'est à bruit pour point. Donc, effectivement,
donc,
si tu
non,
pas, hein.
Mais j'ai à l'esprit ceux qui tournent actuellement. Et je dirais petit coup de cœur pour Tana.
Tana.
Et puis pour La Saison des Femmes. Mais Tana est un très beau film et je pense qu'il mérite d'être vu.
Cette histoire d'amour impossible.
Voilà. Dans cette île magnifique, Tana. Ouais.
Tana a été, juste encore un petit détail, a été dans les 5 finalistes pour l'Oscar du film en meilleur, du meilleur film en langue étrangère, donc étrangère étant non anglophone. C'était la première fois que justement un film de cette région-là arrivait jusqu'à Hollywood. Et c'est pas grâce à ça, mais ça contribue. Le film est en train vraiment de sortir dans la plupart des pays, et encore une super carrière. Dans le monde entier et qui le mérite vraiment, quoi, parce que c'est fait tellement simplement aussi, et de donner la parole justement à ces gens-là, la parole dans leur langue aussi, et de connaître cette histoire racontée par eux, en fait, c'est génial.
Absolument. Mm-hmm. Alors, bah, du coup, moi, je vais en donner 2, comme ça, je prends ta place. Moi, c'est vrai que, par exemple, parmi mes films préférés, il y a El Viaje. Également de Fernando Solanas, qui est également une espèce de fresque comme ça. Je crois qu'il est assez long également, plus de 2 heures, un truc comme ça. Il me semble bien de l'avoir vu d'ailleurs au cinéma des Trois Mondes, un truc sûrement un des partenaires de Trigon Film. Et puis alors, un film un peu argentin également, mais un peu plus dur, mais qui moi m'a beaucoup beaucoup parlé, c'est Memoria del Saqueo. Je crois qu'on prononce comme ça un saqueo.
Ouais. Ouais.
Qui est vraiment là sur ces classes moyennes qui ont été dépossédées de tout en Argentine, avec ces personnes qui sont sorties dans la rue à coups de casserole, et puis vraiment qui ont. Quelque chose a vraiment basculé, il me semble, à ce moment-là, où on s'est dit, voilà, du côté politique, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et puis, effectivement, après, avec tout ce qu'on a connu comme écho de cette situation-là, écho qui, maintenant, eh bien, nous assiège, puisque la Grèce, l'Espagne, le Portugal vivent à peu près les mêmes situations, et que celles-ci, j'ai l'impression, vont continuer de s'étendre. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci à toi.
Florence et Marion. Alors, je vais juste redonner les sites internet. Donc, Florence, Trigon Film, c'est www.trigon-film.org. Et puis, donc, pour Helvetas, pour Marion, Helvetas et Cinéma Sud, www.cinemasud.ch. Et vous êtes toutes deux, donc, je l'avais dit au début avec quelques petites erreurs, mais j'aimerais quand même le redire. Donc, hop, voilà. Donc, Florence Michel, responsable de la communication pour Trigon Film, mais Suisse romande. Voilà. Et puis Marion Petrucci, chargée de la com du projet Cinéma Sud d'Helvetas. Et vous avez complété Effectivement, je ne sais pas si vous encore le faire pour se dire au revoir, mais ça va comme ça, je pense.
Oui, ouais. C'est parfait.
Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de succès pour cet événement, mais j'ai l'impression que le succès est déjà là.
Oui, après, on croise juste les doigts pour la météo.
Voilà, exactement. Et puis, a priori, toute dernière question, ce sera reconduit l'année prochaine, certainement.
Oui.
Donc ça, on peut déjà l'annoncer, on est sûr. Et également avec le partenariat Trigon.
Ah oui, j'espère.
Certainement. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.
Merci, à bientôt.
Voilà, nous, on se fait une petite pause musicale, deux petites chansons, on reprend notre souffle et puis ensuite, nous parlerons. On va continuer de parler un petit peu cinéma aussi, parce qu'effectivement, Alexandra, qui est donc percussionniste, mais tu en diras plus tout à l'heure, musicienne, on s'était rencontrés à l'occasion de la Big Biennale, donc à Plein Palais, au moment où avec...
Parasite sans S.
Merci, Parasite sans S, sans S. Vous faisiez un concert performatif dans ce petit local de l'usine de Kugler.
De l'espace Kugler.
De l'espace, pardon, oui. De l'espace Kugler. Ah, tiens, j'ai besoin là de mon petit coup de flatte hein, quand même. Eh bien, vous avez fait ce concert, cette performance. Et puis, toi, tu es par ailleurs percussionniste, donc on va voir de quoi il en retourne. Mais ce sera dans quelques minutes, juste avant. On y va avec quelques petites chansons et on commence de nouveau dans la playlist Vintage avec Blur. Ouh, c'est parti! Woo!